Littérairement votre.
Alors, un petit coucou à toi, Carmen.
Coucou.
Et je fais un grand salut à nos sympathiques auditeurs.
Salut.
Aujourd'hui, nous allons mettre en valeur un auteur que toi, Carmen, qui habite pas très loin de Sisteron, tu as dû, dans ta période de jeunesse et de polissonnerie, au détour de magnifiques androns sisteronnais, croiser le fantôme de cet artiste, poète, plus généralement homme de lettres. Connu, mais très certainement pas assez reconnu, pour la qualité de ses œuvres. Je te passe le relais, Carmen, pour nous parler de Paul Arène et des festivités autour de lui qui auront lieu tout au long de l'année 2026 à Sisteron. À toi, Carmen.
Eh oui, cela fait 130 ans que Paul Arène a rejoint le paradis des fées libres. Et à cette occasion, Sisteron célèbre l'artiste avec diverses animations tout au long de l'année, avec et grâce à l'association des Amis de Paul Arène. Et donc, Jean-Paul et moi, nous allons lui rendre hommage avec un texte intitulé « Les haricots » de Pitalugue. Mais tout d'abord, une petite biographie.
Paul Arène est né le 26 juin 1843 à Sisteron. Sa mère, Marie-Louise Reine Lagrange, née le 7 janvier 1818 à Sisteron, est ouvrière, faiseuse de mode. Elle se marie le 12 septembre 1838 à Sisteron. Alors qu'elle est encore mineure, à Adolphe Arène, né le 7 novembre 1810, horloger. Le grand-père maternel de Paul Arène, Dominique Lagrange, né le 23 février 1787 à Sisteron, et maître chapelier. Après avoir préparé une licence de philosophie de 1861 à 1864, Paul Arène travaille comme maître d'études au lycée Thiers à Marseille, puis au lycée de Vannes. Une petite pièce jouée avec succès à l'Odéon, Pierrot l'héritier, lui fit quitter en 1865 l'université pour le journalisme. Il est alors âgé de 23 ans. En 1867, Paul Arène est l'un des auteurs du Parnasse siculé contemporain, parodie du Parnasse contemporain. Le Parnasse contemporain se compose de 3 volumes collectifs de poésie, publiés en 1866, 1871 et 1876, par l'éditeur Alphonse Lemaire, auxquels participèrent une centaine de poètes. Le Parnasse siculé lui vaut de vivre inimitié. À Paris, il fréquente les cafés littéraires et devient l'ami d'Alphonse Daudet, Catulle Mendès. En 1884, Paul Arène collabore activement avec Alphonse Daudet à l'écriture des chroniques provençales publiées par l'Événement, qui seront ensuite rassemblées sous le titre « Lettres de Montmoulin ». Collaboration si dense que Paul Arène est décrit par quelques spécialistes de l'histoire de la littérature provençale, comme le nègre de Daudet. Tout a été reconnu par Daudet, lui-même, et confirmé par Paul Arène. En 1868, Paul Arène a 25 ans. Il écrit ce qui reste de son chef-d'œuvre, Jean des Figues.
Il prend part à la guerre de 1870 avec le grade de capitaine et reçoit en 1884 la Légion d'honneur. Après 1870, il publie des pièces de théâtre, des chroniques, des contes, des poèmes, notamment Le Tort d'entrée, Le Clos des âmes, Le Canot des six capitaines, Au bon soleil, La gueuse parfumée, deux recueils de contes. Viennent ensuite La chèvre d'or, puis Les ogresses, Le midi bouge et Domnine. Il écrit régulièrement pour le journal, puis pour le Figaro littéraire, des articles et des chroniques. En relation constante avec Joseph Roumanille, avec Frédéric Mistral et avec Théodore Aubanel, ses deux maîtres. Il regroupe ses amis occitans de Paris, puis s'inspirant du félibrige de Fonségune, il organise en 1879 le félibrige parisien, dont il sera le président, après Charles de Tourtoulon et Jasmin. Il compose également ses premiers vers provençaux qui paraissent dans l'Almanach avignonnais. Il est aussi élu majoral du Félibrige en 1884. Il anime diverses revues, La Cigale, dont il dira « C'est pour ne pas perdre l'accent que nous fondâmes La Cigale ». Au sujet de toutes ces pièces provençales et tirées de quelques particularités de mœurs ou de paysages de la contrée de Sisteron. Amoureux et conduit par la famille de Naïs Roumanille, puis par celle de Jeanne Charcot, il ne se mariera jamais. Il s'installe à Antibes chez sa sœur en 1889. Il s'éteint le 12 décembre 1896. Paul Arène est inhumé au cimetière de Sisteron. On peut lire sur sa tombe, en haut, un texte en provençal traduit par « Je m'en vais, l'âme ravie d'avoir rêvé ma vie ». Au-dessous, quatre vers d'Armand Silvestre, contemporain de Paul Arène. « Hôte du paysage où ton esprit courait d'Avignon au Centour, au port bleu de Martigues, de la ruelle obscure où Domnine pleurait, au jardin paternel où rêvait Jean des Figues ». Nous allons vous lire à présent les haricots de Pitalugue. Pertuis semait ses haricots. Des hauteurs du Luberon au gravier de la Durance, ce n'était par tout le terroir que gens sans blouse ni veste en tailleole qui suaient et mastiquaient. Et dans la ville, les bourgeois, assis au frais sous les platanes, à l'endroit où le cours domine la plaine, disaient en regardant ses points rouges et blancs remués. Si les pluies arrivent à temps et que la semence se trouve bonne, la France cette année ne manquera pas de haricots. Car Pertuis a cette prétention, quasi justifiée d'ailleurs, de fournir de haricots la France entière. Pertuis aurait pu, grâce à son sol et à son climat, cultiver la Garance comme Avignon ou le charbon à Foulon comme Saint-Rémy. Pertuis aurait pu dorer ses champs de froment comme Arles ou les ensanglanter de tomates comme Antibes. Mais Pertuis a préféré le haricot. Légume modeste qui ne manque pourtant ni de grâce ni de coquetterie quand ses fines vrilles grimpantes et son feuillage découpé tremblent à la brise.
De tous ces semeurs semant comme des enragés, le plus enragé, sans contredit, était le brave Pitalugue. La guêtre au mollet, rein cinglé, il s'escrimait de la pioche. Tête baissée, lorsque, dans le terrain passé et repassé, il ne resta plus cailloux ni racines, alors, du devers de l'outil, doucement il aménagea en pente douce pour que l'eau du réservoir puisse y courir. Le terrain aménagé, il prit un long cordeau, muni à ses deux bouts de chevillettes, planta les chevillettes en terre, tendit la corde et tassa, parallèle au front du champ, 1, 2, 3, 5, 10 rigoles, aussi régulièrement espacées que les lignes d'une portée musicale sur les parties de l'Orphéon de Pertuis. Puis, tout ainsi réglé, Pitalugue reprit une par une ses rigoles et l'air attentif, un genou en terre, il sema. « Semant du vent, murmurait-il, c'est quoi qu'en dise monsieur le curé, le seul moyen qui me reste aujourd'hui de ne pas récolter la tempête. »
Et Pitalugue, en effet, semait du vent. C'est pour prendre du vent, disons mieux, c'est pour ne rien prendre du tout, que de 3 secondes en 3 secondes, il envoyait la main à sa gibecière. Ce n'est rien du tout qu'il y saisissait, ce n'est rien du tout que son pouce et son index rapprochés déposés avec soin dans le sillon, et la paume de sa main gauche, rabattant à chaque fois la terre friable et blutée, ne recouvrait que des haricots imaginaires. Cependant, à 100 mètres au-dessus du champ, dans le petit bosquet qui ombrage la côte, un homme que Pitalugue ne voyait point suivait de l'œil avec intérêt les mouvements compliqués de Pitalugue. « Hé hé !» se disait-il, « Pitalugue travaille !»
Perché ici, dans la verdure, avec son nez crochu, ses lunettes d'or et son habit gris moucheté, un chasseur l'aurait pris de loin pour un hibou de la grosse espèce. Mais ce n'était pas un hibou, c'était mieux. C'était M. Cougourdan, le redouté M. Cougourdan, arpenteur, juré, marchand de biens, que la rumeur publique accusait de se divertir parfois à l'usure. La justice de paix, vacant ce jour-là, et réduit à ne poursuivre personne, M. Cougourdan avait imaginé d'apporter ses registres à la campagne. M. Cougourdan aimait la nature. Un beau paysage l'inspirait, le chant des oiseaux, loin de le distraire, ne faisait qu'activer ses calculs. Et c'est ainsi, le front rafraîchi par l'ombre mouvante des arbres, qu'il inventait ses plus subtiles procédures. Le spectacle doucement rustique de Pitalugue, travaillant, mit M. Cougourdan en verve. Une idée. Si je tirais au clair le compte de ce Pitalugue.
Et M. Cougourdan constata qu'ayant l'année d'auparavant prêté 100 francs à Pitalugue, Pitalugue se trouvait à l'heure présente lui devoir juste 100 écus. Bah, les haricots me paieront cela. Je ferai saisir à la récolte. Là-dessus, M. Cougourdan sortit du bois et se mit à descendre vers le champ de Pitalugue, ne pouvant résister au désir de voir les haricots de plus près. Au même moment, comme l'ombre aiguë du puits lapinier tombant juste sur un trou de roche qu'on nomme le cadran des pauvres marquait 3 heures, Pitalugue leva la tête et vit venir Lazoun, sa femme, qui lui apportait à goûter. Il rajusta sa culotte et sa tailleule, alla se laver les mains à la fontaine, heurta violemment pour en détacher la terre collée ses fortes semelles à clous contre la pierre du bassin, puis s'assit à l'ombre d'une courge élevée en treille devant la cabane. Prêt à manger, le couteau ouvert, le fiasque et le panier entre les jambes.
« Lazoun, regarde un peu, si on ne dirait pas M. Cougourdan. »« Bonjour Lazoun, bonjour Pitalugue, » nasilla gracieusement l'usurier. Et tout en jetant sur le champ un regard discret et circulaire, il ajouta. « Pour des haricots bien semés, voilà des haricots bien semés. Pour vous qui ne gèlent pas par-dessus. » « Ne craignez rien, la semence est bonne, » répondit philosophiquement Pitalugue. Et, tranquille comme Baptiste, il acheva son pain, ferma son couteau, but le coup de grâce et se remit au travail, tandis que Lazoun et M. Cougourdan s'éloignaient. « Hardi les haricots, » murmurait-il, en continuant sa besogne illusoire. « Encore un encore, des cents et des mille. Les voisins aujourd'hui ne diront pas que Pitalugue ne fait rien et qu'il a passé le temps à fainéanter sous sa courge. »
Toujours me tirer, me barrer, me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps. D'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu où me laisser glisser à deux. Avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes. Aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Un petit clocher de cocagne que j'entendrai tinter l'hiver tout comme l'été, la nuit, le jour sur la campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie. On verrait chaque soir le tourbillon fou du monde devant la télé. Mes chats, mes chiens roupillant à nos pieds à poings fermés. Et qu'au dehors le vent d'hiver se donnerait un mal de chien pour faire plier les peupliers que nous aurions plantés à deux. Et les soirées d'automne couleraient douces et monotones. Et chaque nuit on se dirait chérie, on réveillonne. Aïe, quelle petite vie de cocagne, l'hiver tout comme l'été, je pourrais pas m'en lasser. La nuit, le jour dans ma campagne, ni vu et ni connu, dans mon petit coin perdu. Mais voilà qu'il faut me tirer, me barrer, me tailler, foutre le camp. Je n'ai même pas le temps de m'oublier un instant loin du présent. Adieu mes chats, mes petits chats, mes chiens, adieu le vent. Ce vieux fauteuil au coin du feu, je m'y serais jamais planqué à deux. C'est bête ce rêve que je fais chaque jour dans ma petite auto. En venant du bureau qui pourrit ma vie de nostalgie.
Il peina ainsi jusqu'au soleil couché. Hé, hey, Pitalugue ! Hola, Pitalugue ! Lui criaient du chemin les paysans qui, bissac au dos, pioche sur le cou, rentraient par groupe à la ville. « Tu sèmeras le restant demain. La mère des jours n'est pas morte. » Enfin, Pitalugue se décida à quitter son champ. Avant de partir, il regarda. « Beau travail !» murmurait-il d'un air à la fois narquois et satisfait. « Beau travail !» Mais, comme dit Jean de la Lune, qui, riant, entendant ses œufs, cette fois, le rire vaut plus que la laine. Peut-être voudriez-vous savoir ce qu'était Pitalugue et pourquoi il avait adopté, en fait de haricots, une aussi étrange procédure de culture. Pitalugue était philosophe, vrai philosophe de campagne, prenant le temps comme il vient et le soleil comme il se lève, arrangeant tant bien que mal, à force d'esprit, une existence chaque jour désorganisée par ses vices, et en dépensant à vivre d'expédients au village plus d'efforts et d'ingéniosité que tant d'autres à faire fortune à la grande ville.
Songe fait comme pas un, pour une partie de Bastidon, Pitalugue laisse en l'air fenaison et vendange. Pitalugue pêche, Pitalugue chasse, Pitalugue a un chien, qu'il appelle Brutus. Un furet gîte en son grenier, et dans l'écurie au-dessus de la crèche, parfois vide, l'œil stupéfait du bourricot peut contempler les évolutions et les saluts d'une grosse chouette en cage. Le pire de tout, c'est que Pitalugue est joueur. Mais là, joueur comme les cartes, joueur à jouer, enfants et femmes, joueur, disent les gens, a taillé une partie de Vendôme sous 6 pieds d'eau en plein hiver quand la Durance charrie. C'est pour cela que Pitalugue, jadis à son aise, se trouve maintenant gêné. La récolte est mangée d'avance, les terres entamées par l'usure, et quelle scène quand il rentre, un peu gris et la poche vide, dans sa maisonnette du portail des chiens. Quel remords aussi, car au fond, Pitalugue a bon cœur. Mais ni scène ni remords ne peuvent rien contre les cartes. Pitalugue jure, chaque fois qu'il ne jouera plus. Et chaque matin, il rejoue.
Ainsi, aujourd'hui, il s'était levé, ce brave Pitalugue, avec les meilleures intentions du monde. Au petit jour, et les coqs chantant encore, il était devant sa porte en train de charger sur l'âne un sac de haricots. Et quels haricots ! De vrais haricots de semences, émaillés, lourds comme des balles, ronds et blancs comme des œufs de pigeon. « Emploie-les bien et ménage-les, » disait la Zoune en donnant un coup de main. « Tu sais que ce sont nos derniers. »« Cette fois, Zoune, le diable me brûle si tu n'es pas contente. À ce soir. Arrive, bourricot. » Et puis Pitalugue était parti, vertueux, derrière son âne. Par malheur, aux portes de la ville, il rencontre le perruquier, Fra, qui s'en revenait, les yeux rouges, ayant passé sa nuit à battre les cartes dans une ferme. « Tu rentres bien tard, Fra. » « Tu sors bien matin, Pitalugue. » Le fait est qu'il ne passe pas un chat. Et ce serait peut-être l'occasion d'en tailler une. Pas pour 1 000 000, Fra. Voyons, rien qu'une petite, Pitalugue.
Et mes haricots, tes haricots entendront. L'infortuné Pitalugue résista d'abord, puis se laissa tenter. Fra sortit les cartes. On en tailla une, on en tailla deux, et les haricots attendirent. Bref, l'alouette montait des blés, et les premiers rayons coloraient en rose la muraille de pierre sèche sur laquelle les deux joueurs jouaient, assis à califourchon, lorsque Pitalugue, retournant ses poches, s'aperçut qu'il avait tout perdu. « 5 francs sur parole, » dit Fra. « 5 francs, ça va, » répondit Pitalugue. Les cartes tournèrent et Pitalugue perdit. « Qui tout double ?»« Qui tout double ?» Pitalugue perdit encore. Maintenant, le tout compte ta semence. Pitalugue accepta. Il était fou. Ses mains tremblaient.
Non, grommelait-il en donnant. Je ne perdrai pas cette fois. Les cartes ne seraient pas justes. Et il perdit pourtant. Et le refra, chargeant le sac d'un tour de main, lui dit. La prochaine fois, Pitalugue, nous jouerons l'âne. Que faire ? Rentrer, tout avouer à la Zoune ? Pitalugue n'osa pas. La mesure était comble. Acheter d'autres semences ? Le moyen sans un rouge liarde. et emprunté à un ami, mais c'eût été rendre l'aventure publique. Assuré du moins de la discrétion du barbier, les joueurs ne se vendent pas entre eux. Notre homme, après 5 minutes de profond désespoir, prit, comme on l'a vu, son parti en brave. « Je ne peux pas semer des haricots puisque je n'en ai plus », se dit-il en riant dans sa barbiche. « Mais je peux faire semblant d'en semer. La zone n'y verra que du feu. Le hasard est grand et d'ici à la récolte, bien des choses se seront passées. » Bien des choses en effet se passèrent qui mirent Pertuis en émoi.
D'abord, Pitaluque changea du tout au tout. Talonné par le remords et craignant toujours d'être découvert, il renonça au jeu. Déserta l'auberge, lui que ses meilleurs amis accusaient de trouver la terre trop basse. On le vit dans ce petit champ, pioché, gratté, rustiqué à mort. Jamais haricots mieux soignés que ces haricots qui n'existaient pas. Tous les soirs, au coucher du soleil, il les arrosait, mesurant sa part à chaque rigole, et vidant à fond le réservoir qui, tous les matins, se retrouvait rempli d'eau claire. Le jour, autre chantier. Si parfois, sous un soleil trop vif, la terre séchait et faisait croûte, Pitaluque la binait légèrement pour permettre aux grains de lever. Souvent aussi, la main armée d'un gant de cuir, il allait à travers les raies, arrachant le chardon cuisant, le senesson envahisseur et le chien dent tenace. Ses voisins l'admiraient. Sa femme n'y comprenait rien. Et M. Cougourdan, radieux, rêvait toutes les nuits de haricots saisis et parlait de s'acheter des lunettes neuves.
Or, au bout d'une quinzaine, de ça, de là, tous les haricots de Pertuis se mirent à lever le nez. Une pousse blanche d'abord, recourbée en crosse d'évêque, deux feuilles coiffées de la graine et portant encore un fragment de terre soulevé. Puis la graine sèche tomba, les deux feuilles découpées en cœur se déplièrent et bientôt, du Luberon à la Durance, toute la plaine verdoya. Seul le champ de Pitaluque ne bougeait point. « Pitaluque, que font tes haricots ?» Et Pitaluque répondait « Ils travaillent sous terre ». Cependant, les haricots de Pertuis s'étaient mis à filer. Il fallut des soutiens pour leurs tiges fragiles. De tous côtés, dans les canières plantées en tête de chaque champ, les paysans, serpettes en main, coupaient les roseaux. Pitaluque coupa des roseaux, comme tout le monde. Il en nettoya les nœuds, il les appareilla, puis les disposa en faisceaux, 4 par 4, et le sommet noué d'un brin de jonc, de façon à ménager aux haricots, qui bientôt grimperaient dessus, ce qu'il faut d'air et de lumière.
Au bout de la seconde quinzaine, les haricots de Pertuis avaient grimpé et la plaine du Luberon à la Durance se trouva couverte d'une infinité de petits pavillons verts. Seuls, les haricots de Pitaluque ne grimpèrent point. Le champ demeura rouge et sec, attristé encore qu'il était par ses alignements de roseaux jaunes. La Zoum dit « Il me semble, Pitaluque, que nos haricots sont en retard. »« C'est l'espèce, » répondit Pitaluque. Mais lorsque du Luberon à la Durance, sur tous les haricots de la plaine pointèrent des milliers de fleurettes blanches, lorsque ces fleurs se furent changées en autant de cosses appétissantes et cassantes, et qu'on vit que seuls les haricots de Pitaluque ne fleurissaient ni ne grainaient, alors les gens s'animurent dans la ville. Les malins, sans bien savoir pourquoi, mais soupçonnant quelques bons tours, commencèrent à gausser et à rire. Les badauds, en pèlerinage, allèrent contempler le champ maudit. M. Cougourdan fut inquiet. Et la Zoum s'installa sous la courge, accablant la terre et le soleil de protestations indignées.
Un soir, tante Dide, mère de la Zoum, belle-mère de Pitaluque par conséquent, et matrone des plus compétentes, se rendit sur les lieux malgré son grand âge. Observa, réfléchit, et déclara au détour qu'il y avait de la magie noire là-dessous et que les haricots étaient ensorcelés. Pitaluque abonda dans son sens et toute la famille jusqu'au 15e degré de parenté ayant été convoquée à la maisonnette du portail des chiens, il fut décidé que, vu la gravité des circonstances, le lendemain, on ferait bouillir. Tante Dide, qui justement se trouvait être veuve, s'en alla donc rôder chez le terrailleur de la Grand Place, dans le dessein de voler une marmite qui n'eût pas servi. Car pour faire bouillir dans les règles, il faut avant tout une marmite vierge volée par une veuve. Le terrailler connaissait l'usage et, c'est sûr d'être dédommagé à la première occasion, il détourna les yeux pour ne point voir Tante Dide lorsqu'elle glissa la marmite sous sa pelisse.
La marmite ainsi obtenue fut solennellement mise sur le feu en présence de tous les pitalugues, mâles et femelles. Puis, Tante Dide, ayant empli d'eau, versa dans cette eau, non sans marmotter quelques paroles magiques, tous les vieux clous, toutes les vieilles lames rouillées, toutes les aiguilles sans trous et toutes les épingles sans tête du quartier. Et quand la soupe de ferraille commença à bouillir, quand les lames, les clous, les aiguilles et les épingles entrèrent en danse, on fut persuadé qu'à chaque tour, chaque pointe, malgré la distance, s'enfonçait dans la chair du jeteur de sort. « Ça marche !» murmurait Tante Dide. « Encore une brassée de bois, et tout à l'heure, le gueusard va venir nous demander grâce. »« Il sera bien reçu !» répondait la bande.
Cependant, l'astucieux pitalugue, que tout ceci amusait fort, n'avait pu s'empêcher d'aller en souffler un mot à ses amis de la haute ville. Et ce fut dans tout Pertuis une grande joie quand le bruit se répandit qu'au portail des chiens pour désensorceler les haricots, la tribu des pitalugues faisait bouillir. Or, les pitalugues faisant bouillir, la tradition voulait qu'on envoyât quelqu'un se faire assommer par les pitalugues. Ce quelqu'un fut Monsieur Coucourdant. Ni après cela la Providence. Conduit par son destin, M. Coucourdant eut l'idée fâcheuse de s'arrêter devant la boutique du perruquier Fra. Il venait précisément de rencontrer Pitalugue, plus gai qu'à l'ordinaire, et tout épanoui de l'aventure. « As-tu vu ce Pitalugue, quel air content il a ?»« Mettez-vous à sa place, M. Coucourdant, avec ce qui lui arrive. »« Ah, quoi donc ?»« Ah, donc, gagné ?»« Mieux que ça, M. Coucourdant. »« Hérité, peut-être. »« Mieux encore. » Il a, en recarrelant sa cuve, trouvé 1000 écus de 6 livres dans un bas. 1000 écus, Sartibois ? Et mon billet qui justement tombe ce matin ? Pitalugue descend chez lui, monsieur Coucourdant. Rattrapez-le avant qu'il n'ait tout joué ou tout bu. Et si vous voulez suivre un bon conseil, courez vite.
Au portail des chiens, la marmite bouillait toujours. Et l'impatience était à son comble. Lorsque Cadet, qu'on avait posté en sentinelle, vint tout courant annoncer qu'un vieux monsieur à lunettes d'or, porteur d'un papier qui paraissait être un papier timbré, tournait le coin de la rue. « Monsieur Coucourdant !» s'écria la Zoum. « Il se trouvait là, précisément, quand nous sommâmes les haricots. »« C'est lui le sorcier, je m'en doutais, » reprit Tante Dide. « Allons les enfants, tous en place, et pas un coup de bâton de perdu. » Silencieusement, les 15 pitalugues mâles se rangèrent le long des murs, armés chacun d'une forte trique.
Quelle émotion dans la chambre! On n'entendait que les glou-glous pressés de l'eau, le cliquetis de la ferraille, et bientôt le bruit des souliers de M. Coucourdant sonnant sur l'escalier de bois. Ce fut une mémorable dégelée. Les farceurs de Pertuis eurent pour longtemps de quoi rire. Monsieur Coucourdant, homme discret, ne se plaignit pas. Quant à Pitalugue, ayant retrouvé le soir dans un coin de la chambre son billet de 100 écus perdu par Monsieur Coucourdant dans la bagarre, il en fit une allumette pour sa pipe et dit à la Zoun d'un ton pénétré. « Vois-tu, Zoun, les anciens n'avaient pas tort. Bonne semence n'est jamais perdue, et la terre rend toujours au centuple les bonnes manières qu'on lui fait. » Noble et philosophe, paroles qui seront, s'il plaît au lecteur, la morale de cette histoire. Nous venons de vous lire Les haricots de Pitalugue. Et pour terminer cet hommage à Paul Arène, je vais vous lire une poésie de Paul Arène d'ailleurs, Sonnet de mars. C'est un matin de mars qu'elle m'est revenue, éveillant le jardin d'un bruit de falbala, l'enfant toujours cruel et toujours ingénu, que je n'ai point aimé et qu'il ne m'aimait point. Le givre s'égouttait aux branches, mais plus bas, la neige ourlait encore les buis de l'avenue. et le frisson d'hiver sous leur écorce nue emprisonnait le rire embaumé des lilas. Un clair rayon parut. « Bonjour, c'est moi, » dit-elle. Dans l'air moins froid passa comme un cri d'hirondelle, je la vis me sourire, écrue avoir 16 ans. Et depuis, quelquefois, je me surprends à dire, songeant à ce rayon, songeant à ce sourire, c'était presque l'amour et presque le printemps. Et nous, nous vous disons au revoir.
Oui.
Et
bien littérairement votre.